Le Parlement du Québec souhaite ici réorganiser les rapports entre l'État et les religions. Il refuse de laisser ainsi les tribunaux fixer seuls les termes du débat sur la laïcité de l'État. Le Québec, et c'est un fait reconnu et établi, est une société distincte. Ce modèle dont il entend se doter est unique et propre au Québec, fidèle à ses valeurs et à son histoire.
I'm Julie Bichal.
Et je suis Ricardo Montrose.
And this is the Policy Options Podcast.
Vous venez d'entendre Simon Jolin Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Cet extrait fait partie de son intervention en faveur de la loi 21 lors de la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale du Québec le 16 juin dernier.
A move for closure on the debate and a marathon weekend session at the Quebec National Assembly saw the contentious Bill 21 finally pass, 73-35. The legislation prohibits some government employees from wearing religious symbols to work and mandates that citizens uncover their faces while receiving public services. And, for the next 5 years, it can't be struck down by the courts due to the preemptive use of the notwithstanding clause. Though Premier François Legault says Quebecers are on his side, the bill is already facing challenges. On Monday, Montrealers took to the streets in protest, while earlier that same day, the National Council of Canadian Muslims and the Canadian Civil Liberties Association filed a motion for an injunction in Quebec Superior Court. Today on the podcast, we are joined by scholars and practitioners who've spoken out against some of the key dimensions of the bill, including the identity debate, the disproportionate effect on Muslim women, and the legal grounds on which it can or cannot be challenged.
Veuillez noter que ces conversations ont été enregistrées avant l'adoption du projet de loi, et donc nos invités n'ont pas pu se prononcer sur les amendements de dernière minute qui ont été ajoutés, notamment ceux concernant les mesures de coercition. Leur point de vue reste toutefois pertinent, et la justesse de leur intervention ainsi que l'importance du débat nous a encouragés à faire de ce balado un épisode bilingue. Tout d'abord, Bouchra Manahi, consultante auprès du Conseil national des musulmans canadiens, s'est joint à nous pour nous parler de ce qu'est la loi 21, de son impact sur les communautés religieuses et des éléments problématiques liés au processus de consultation publique.
Le projet de loi 21 ne peut pas être défini sans ramener à la succession de projets de loi qui ont tenté d'être mis en place au Québec depuis un peu plus d'une décennie. C'est un projet de loi qui semblerait vouloir régler tous les problèmes de visibilité religieuse et apparemment de cohabitation avec les enjeux de laïcité. Donc il semblerait vouloir régler un problème. En réalité, il ne définit pas le problème qu'il veut régler. Et l'idée, ce serait, d'après ce que l'on comprend comme société civile, c'est que l'État se définisse comme neutre et qu'il détermine par une certaine vision de la laïcité l'absence totale de signes religieux chez des fonctionnaires de l'État. Et dans le fond, ils ont listé un certain nombre de métiers ou de tâches qui pourraient ne pas permettre à certains individus de porter une kippa, un turban sikh ou un voile. Donc, principalement ces signes-là qu'on estime être, entre guillemets, des signes religieux. Fait qu'à quoi sert le projet de loi 21? C'est ce qu'il prétend, en fait, servir. Il prétend servir à régler ce problème-là, et je dis bien « problème » entre guillemets. En réalité, je pense qu'il est autre chose. Il est une volonté idéologique de la part de ce gouvernement-là de planter un drapeau qui serait celui d'une société neutre, laïque, mais qui, je pense, pose beaucoup de problèmes.
The government builds on the idea that Quebec society has been debating this issue for 10 years, that people are tired, and it's time to ram this one through. But there's key features to this one that distinguish it from previous laws and that are causing lots of people to question why the rush, why such hurried consultations, and why such selective ones.
Speaking now is Robert Leckie, Samuel Gale Professor and Dean of the McGill Faculty of Law.
So the CAC had indicated that it was going to legislate on secularism and religious accommodations, but it had not spelled out a couple of really key points. I would say the way to describe it is that there's the scope of the law and there's the intensity of the law. And the scope is that this one goes further than previous discussions by including teachers, government lawyers too, but teachers are the ones that really capture the public imagination. So the so-called Bouchard-Taylor compromise applied to people like judges and police and so on. This goes much further with teachers. And as for the intensity of the law, or the sort of strength of it, the government is planning to use the notwithstanding clause. That is, the government is planning to try to ironclad this law to prevent attacks in court under the Canadian Charter of Rights and Freedoms and under the Quebec Charter as well. And so that idea of trying to sort of foreclose any involvement by the judges in the peaceful judicial process by citizens, that came very unexpectedly this spring.
Jack Jedwab, président de l'Association d'études canadiennes, a beaucoup écrit sur la loi 21 et nous aide aujourd'hui à faire un portrait historique de la laïcité au Québec, ainsi qu'à mieux comprendre les motivations et considérations identitaires qui ont mené à l'établissement de cette loi. Il débute son intervention en nous parlant de la manière dont les partisans de la loi 21 justifient celle-ci.
En termes de la justification, on insiste sur deux choses. D'abord, on dit que les personnes en position d'autorité qui portent des signes religieux ne sont pas neutres. C'est-à-dire que le fait de porter un signe religieux apporte une idéologie qui l'accompagne et qui a une influence directe ou indirecte, plutôt indirecte, sur les personnes qui reçoivent les services, que ce soit les gens qui ont besoin d'un service de la part de la police ou des élèves dans des écoles. Ça, c'est un des arguments qui est probablement l'argument le plus fort par les gens qui appuient la loi. L'autre argument qu'on entend souvent, c'est juste par analogie, c'est qu'on dit que ces signes religieux sont similaires ou l'équivalent à des signes politiques. C'est-à-dire qu'on dit que c'est similaire à ce que quelqu'un porte un logo sur une pull qui dit Parti libéral du Québec ou Parti québécois. Parce que dans les cas, dans ces mêmes cas, on dit que ceci apporte un message ou encourage indirectement aux autres de supporter ou d'adhérer à un mouvement politique. Alors on compare ça avec les signes religieux. Pour ma part, je pense que cette comparaison est farfelue, mais c'est une comparaison qu'on entend très souvent de la part des défendeurs de ce projet de loi.
But where do these arguments come from? And why aren't we seeing them take the same form in the rest of Canada? Jack Jedwab again, on how international currents and local histories are influencing the debate in Quebec.
There are different histories and narratives that have informed the way in which governments have separated religion from the state. So in the United States, it would be unthinkable to disallow people from wearing religious signs in schools, and in France, that's considered to be the guiding idea behind laïcité, but it was not always the case in France. Quebec has tried to position itself in some ways between those two models, between the American model of separating church and state, or the rest of Canada model, and the French model or European model. Quebec has a particular history as regards the relationship between the church and the broader society. The Catholic Church was very dominant in many aspects of the lives of Quebecers for much of the period prior to 1960. Over time, in reflecting back on the influence of the church, as the Choir Revolution began to construct its own narrative, the church was looked back upon as having a negative influence on Quebec life and on Quebec society. And so that created a real pushback from a people that broadly defined themselves by their faith and attributed much importance to their faith to becoming, probably in North America, the least religious place on the continent. Now, to be fair, some 50 years later, that sentiment, which we're hearing connected to this debate from some thought leaders that say that this is a logical outcome of what began with the Choir Revolution. But actually, that whole idea in the survey work that I've been involved with doesn't resonate with people who are under the age of 55. By and large, a lot of those people actually have positive views of Catholic Church. That whole discourse around all the horrible things the Catholic Church has done to Quebecers and Quebec society is not connecting as much. So it's not as much of a motivator for the significant support for Bill 21. So I would argue Quebec does not operate in a vacuum, and that the post 9/11 period, which created, a real strong reaction and reflection about the place of religious minorities in various pluralistic societies, and particularly about Islam in Western contemporary democratic societies, was really the big, big turning point. And in Quebec's case, after the Stasi report in France in the early part of this century, and the recommendations to deepen restrictions against the expression of religion in the public domain in that country, it didn't take much for a catalyst to emerge, or a series of catalysts to emerge, to trigger this whole conversation. And I would suggest one of the catalysts, which may seem minor in retrospect, was this whole matter of windows being frosted at a local Y so that young Orthodox Jewish boys wouldn't be able to see females exercising And as much as this may sound a bit surreal, that created a province-wide identity clash, which then snowballed into a variety of other issues around accommodations of religious differences. And so the government felt it was important to step in some way to calm down people's insecurities, fears, and nervousness that was very media-generated, and that the Liberal government of Jean Charest at the time was worried about what that might mean for its electoral prospects, as this became a very important issue on the electoral agenda, that this commission that it identified two very respected scholars to co-chair was a way to calm people down, permit the conversation, and give us a bit of a hiatus where people had time to reflect on this whole thing rather than dealing with it hastily with a media-generated controversy that might push the government into adopting measures that risk violating our charters of rights.
So, over a decade ago, the Bouchard-Taylor Commission went around Quebec consulting on religious accommodation and ultimately issuing a set of recommendations that formed part of the blueprint for this current law. While some Quebecers see Bill 21 as the logical next step in these debates, many of those affected have a different perspective.
I think they're seeing the law as a message directed to Muslims about their place in society. Right? I think that's how a lot of people are seeing it, increasingly so. And I think a lot of people are focused around that message, including the government, which in terms of doing something initially, which was hypothetical in terms of the number of people it might affect, was really about sending a message about the place of religion in society and about the philosophy of what it calls laïcité. So that's the way I think people have increasingly come to see it. I happen to think that's what, if you look at the origins of this thing as a post-9/11 phenomenon, both here and elsewhere, is probably what underlies a lot of the conversation and what we see in a lot of social media when describing the motivation and support for these measures. The other religious symbols I think people see or are understanding are collateral damage in this thing.
Pour beaucoup de personnes au Québec, le projet de loi 21 est un projet de loi, c'est un numéro de loi. C'est quelque chose dont on discute à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose dont, je ne sais pas moi, leurs élus, leurs députés discuteraient en chambre. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement un projet de loi, c'est une façon de leur interdire d'avoir un horizon professionnel, d'avoir une possibilité d'épanouissement comme citoyenne et comme citoyen dans la société. Fait que le projet de loi est une conversation pour certains, mais il est une réalité et du quotidien pour de nombreux Québécois et Québécoises. Je pense qu'à une femme comme Bouchra, par exemple, qui est professeure et qui porte le foulard et qui, dans le fond, elle, les choses qui lui tiennent à cœur, c'est d'avoir une école qui a les moyens d'éduquer les enfants. Je pense à des étudiantes qui sont en ce moment en train d'être bientôt diplômées comme étudiantes en éducation, qui ont à cœur de vouloir transmettre ce qu'elles ont appris, puis leur vision même de la société à des enfants et qui ne pourront pas le faire. Je pense aussi à des personnes, par exemple, c'est sûr que de mon background, j'ai accès à beaucoup plus de femmes qui se définissent comme musulmanes, mais par exemple des personnes qui sont en ce moment avocates, des femmes avocates qui portent le voile et qui souhaiteraient par exemple être juges un jour, mais qui ne pourront pas. Et donc, encore une fois, c'est comme une sorte de barrière qu'on met à certaines personnes. Je pense qu'assurément, autour de chacune des controverses ou de chacun des débats, il y a des effets et des conséquences sur la vie des gens. Je pense qu'il y a certaines organisations comme Justice Femmes, comme le NCCM, comme d'autres organisations, musulmanes ou pas d'ailleurs, qui ont montré comment les effets de la loi, même si la loi n'est pas encore en cours, les effets de la loi sont déjà perceptibles pour certains. Il y a quelques semaines, il y avait une manifestation contre le projet de loi. Et durant la manifestation, je parlais à une jeune fille qui est venue me voir parce que je l'avais eue comme étudiante. Elle me disait qu'elle voulait devenir travailleuse sociale, mais que dans les deux dernières entrevues qu'elle a faites, les personnes lui ont dit face à elle, « Mais on ne sait pas si on peut t'employer, parce qu'avec le projet de loi, les travailleurs sociaux ne sont pas concernés par ce projet de loi. La lecture même de ce que ce projet de loi veut dire a déjà entaché plein d'autres espaces, notamment l'espace des employeurs privés, c'est-à-dire des employeurs qui ne sont pas des employeurs publics, parce qu'au final, ça concerne les employeurs publics. » Mais ça touche un certain nombre d'organisations, d'institutions ou d'entreprises qui travaillent aussi avec le public. Mais ça touche aussi toute personne qui a l'impression de comprendre ce que ça veut dire la laïcité au Québec et qui décide d'appliquer ce qu'elle a envie d'appliquer. Donc c'est vraiment une ouverture à l'arbitraire au final.
Éric Mendelson est un avocat montréalais et membre du Barreau du Québec, du Barreau de l'Ontario et du barreau de New York. Robert Luquet et lui répondent ici à l'affirmation souvent répétée par les défenseurs de la loi 21, voulant que celle-ci n'est pas discriminatoire puisqu'elle touche toutes les religions. Voici la réponse d'Eric Mendelsohn, suivie par celle de Robert Luquet.
C'est une affirmation qui va à l'encontre des notions de légalité qu'on a adoptées ici au Québec et au Canada depuis les années 80. Je veux dire, l'idée que parce que tout le monde est traité de la même façon, qu'il ne peut pas avoir de discrimination, c'est une notion qui est complètement irrecevable sur le plan juridique. Il n'y a pas un avocat qui croit vraiment à ça ou qui devrait croire à ça. Ça va à l'encontre de toute notre jurisprudence. La notion qu'on vient de découvrir, le concept même de la discrimination fondée sur les effets d'une loi, c'est-à-dire c'est une affirmation qui est absurde. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il est impératif, à mon avis, qu'une cour puisse examiner ce qui est maintenant le projet de loi 21, mais ce qui pourrait être la loi 21 éventuellement, justement pour être capable de dire au public « c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne ». L'égalité ne peut pas être présumée juste parce qu'on traite tout le monde de la même façon. Alors, par exemple, si on dit à tout le monde « non, il n'y a pas de congé de maternité, mais c'est pas discriminatoire parce qu'il n'y a pas de congé de maternité pour les hommes non plus », on comprend très facilement pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, pour le gouvernement de dire « non, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de problème parce que toutes les religions sont traitées de la même façon », mais c'est justement des affirmations comme ça qui devraient nous inciter à vouloir mettre à la lumière ce projet de loi.
Puis de toute manière, c'est faux que de dire que tout le monde est traité de la même façon parce que le projet de loi fait exception pour le patrimoine culturel religieux du Québec. Alors, ceux et celles de la majorité religieuse catholique peuvent continuer à avoir les symboles religieux tout autour d'eux et d'elles. Alors, c'est même pas correct que de dire que les mêmes règles vont s'appliquer à tout le monde. On fait exception pour conserver la place privilégiée dans les espaces publics de l'Église catholique. Il faut quand même souligner, les minorités religieuses ne s'attaquent pas à la présence de l'historique catholique autour d'eux, mais dès qu'on leur demande d'être absolument neutre, dès qu'on leur demande de cacher leur appartenance religieuse, je pense que c'est approprié pour de répondre, ben, pourquoi conserve-t-on tout cet espace pour la religion catholique?
It's been suggested that Catholic symbols, because of their historical role, have been given a free pass in Quebec, and that minorities bear the brunt of this law. Eric Mendelsohn says the law goes one step further, actually redefining relations between minority rights and the Quebec nation. Here he is now.
So I think it's useful to compare the preamble to Bill 21. That's the part of a statute before you come to the technical provisions that just sort of introduces the bill and flags what its important parts are, to the preambles of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, and of Bill 101, also known as the Charter of the French Language. All of these texts are very short and easy to read, and I encourage everybody to read them. When you do read these side by side, it helps to bring into focus the radicalism of Bill 21, just how profound a change to some very basic notions of Quebec constitutional law sought to be achieved through Bill 21. If you start with the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, individual rights are portrayed as crucially important, but as a sacred trust of the collective. In other words, the collective is charged with protecting individual rights. And the notion in the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms is that protecting individual rights is a matter of collective pride. In other words, it's a constitutive part of Quebec's identity. You then move on to Bill 101, the Charter of the French Language, and you'll see that the Quebec people, what is now called the Quebec Nation, is described in a very inclusive manner. It specifically includes the Anglophone minority of Quebec and also ethnic minorities. And so that conception, a very broad conception of who is a Quebecer, who belongs to the Quebec Nation, and the relationship of individual rights to collective interests and collective rights, you've got a very clear and inclusive set of concepts there that Bill 21 would change in a radical way. In the preamble to Bill 21, we are told now that the Quebec Nation is characterized by its particular history, the specific history of the Quebec Nation's emancipation from the Catholic Church, in effect. In other words, you've got a move away from this inclusive conception of who is a Quebecer and what is the Quebec nation, who belongs to that nation. And it's replaced by a much narrower concept that is identified very closely with the French-Canadian majority and its particular history over time. Further, in the preamble still of Bill 21, you've got a new portrayal of the relationship of individual human rights to the collective's interests. So whereas in the old conception, individual rights were not seen as inherently sort of antagonistic or sort of things that could interfere with the development of the Quebec nation, but were rather seen sort of as a point of pride, now you've got this conception that this much narrower Quebec nation has to contend with minority rights, with human rights in many cases, as obstacles to be overcome. And so the takeaway of all of this to members of minority communities in Quebec, and in particular to the people who are the targets of Bill 21's new dress code, the message is, first off, you don't belong to the Quebec nation. And then secondly, your interests and your concerns and your rights, your human rights, are in the way of the Quebec nation's development. The message of Bill 21 is not only, here's a new dress code, it's here's a new dress code, and here are some new fundamental norms about whose perspective is legitimate, whose perspective is welcome to the discussion and the debate about this dress code. And some people, the very people who are targeted by the dress code, are being told that they really shouldn't be participants in this discussion. They should be takers of conclusions come to by the majority. And that is a very radical development. It would be tragic, in my view, if the gambit of protecting that approach with the notwithstanding clause were to succeed.
Jacques Jedwab intervient aussi sur ce thème de la volonté de la majorité.
En termes de l'argumentaire, ce qui est très problématique, c'est que le gouvernement insiste que ceci est justifié par les enquêtes d'opinion publique, comme si on doit gouverner par ces sondages où la majorité veut ça. C'est un peu ça que le gouvernement dit. La majorité veut ça et ce n'est pas correct de faire obstacle à un désir profond de la part de la majorité dans une démocratie. Mais les démocraties sont aussi là pour protéger les minorités contre les excès des majorités. Et dans ce cas-là, justement, le gouvernement crée ce genre de précédent qui risque d'être dangereux pour l'avenir, où il dit si la majorité veut ça, c'est ça qui est le plus important. Et nous sommes sensibles aux désirs de cette majorité.
Le message qu'envoie cette loi par rapport à la place des minorités religieuses dans la société québécoise a d'autant plus été questionné compte tenu du fait que ces mêmes minorités se sont souvent vues exclues des débats officiels entourant la loi 21. Bouchra Menaï se prononce ici sur le sujet en nous parlant du processus de consultation publique.
Les consultations qui ont été présentées en prévision du dépôt de la loi, ont été très problématiques, dans le sens où on a d'abord déterminé que 6 jours, je pense, de consultation, ou 10 jours, suffiraient à écouter toutes les voix, entre guillemets, sachant qu'encore une fois, on se définit comme une société démocratique, une société dans laquelle la conversation même contradictoire peut trouver sa place. Et en réalité, on a eu affaire à une consultation qui était, il y a une expression pour dire « les dés sont pipés ». Les personnes et les organisations qui ont été invitées, pour la très grande majorité, n'incluaient pas, ou très peu, en fait n'incluaient pas au départ, les personnes, les individus et les communautés concernées. Ça n'est qu'après la diffusion de la première liste et le retrait de certaines organisations, je pense par exemple aux organisations affiliées à la police ou aux syndicats de la police qui s'étaient retirées, donc le barreau du Québec par exemple s'est retiré aussi, donc il y a eu un certain nombre d'organisations qui se sont retirées, et là, en tout cas, il y a eu un ajout, puis il y a eu des demandes qui ont été acceptées de la part de groupes des communautés, par exemple musulmanes, entre autres. On a pu entendre quand même, fort heureusement, la coalition Inclusion Québec qui a permis à certaines communautés minoritaires, certaines communautés religieuses minoritaires au Québec, d'aller porter la voix. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'espace politique n'a pas été l'espace pour écouter toutes les franges de la société québécoise. Et au final, c'est la société civile qui a dû organiser, par exemple, des consultations populaires. Donc la Coalition Inclusion Québec a organisé ses propres consultations, où le NCCM, justement, a participé, entre autres. Il y a eu le Centre Justice et Foi, toutes les boards des écoles anglophones qui ont participé aussi. C'est-à-dire que ça n'était pas seulement des organisations religieuses, mais c'était toutes les personnes qui auraient dû avoir voix au chapitre à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas eu leur place pour parler, parce qu'elles étaient précisément concernées par ce projet de loi, parce que leurs enseignants, leurs avocats, leurs concitoyens, leurs confrères, etc. étaient touchés. Et donc, c'est comme si la société civile a dû créer les espaces pour que cette voix puisse être portée. Donc, les consultations ont été problématiques en termes de représentation. Et je pense qu'il faut aussi noter que les consultations ont été ouvertes avec un certain discours. La première personne qui a parlé aux consultations est une femme qui s'appelle Jamila Ben Habib. Et il y a eu une succession de personnages de cet acabit qui ont parlé et qui, dans le fond, amènent et valident tout un discours très discriminatoire vis-à-vis du fait religieux, voire très islamophobe. Donc, il y a eu, dans les choix qui ont été faits politiquement, une sorte de façon de dire, ben, de toute façon, c'est un projet de loi qu'on veut déposer. Le Premier ministre l'a dit, on veut régler le problème en 2 minutes 30 sur Facebook. Il nous a dit, on veut régler le problème, ça fait 10 ans qu'on en parle, nous, on va gérer le problème. Puis, de toute façon, ça va finir avec un bâillon. Donc, c'est comme si, quelque part, la consultation était une consultation très, très cosmétique.
L'un des éléments les plus controversés de la loi 21 est son utilisation de la disposition dérogatoire. Eric Mendelsohn et Robert Leakey nous expliquent ici en quoi consiste cette disposition et quels seront ses effets sur la loi et ses possibles contestations. Tout d'abord, Eric Mendelsohn.
Il faudrait souligner qu'il y a en fait deux clauses dérogatoires. Alors, cette loi déroge à deux chartes. Elle déroge premièrement à la charte canadienne, mais elle déroge aussi à la charte québécoise. En principe, une clause dérogatoire, c'est une clause qui, quand elle est invoquée par un gouvernement, c'est-à-dire par la législature, qui protège cette loi-là d'être invalidée par un tribunal. Alors, c'est ça l'élément essentiel d'une clause dérogatoire. Plus loin que ça, il y a une autre question à savoir, quel est l'effet de l'invocation d'une clause dérogatoire quant à la possibilité pour un tribunal d'enquêter sur la loi, de se poser des questions sur le bien fondé de la loi et sur la qualification appropriée de la loi par rapport aux normes qui sont établies dans nos textes constitutionnels. Mais comme point de départ, quand la législature invoque la clause dérogatoire, quand c'est fait de façon valide, ça permet à la loi de survivre à une révision judiciaire, c'est-à-dire de continuer d'opérer malgré ou nonobstant les règles qui sont énoncées dans les chartes.
Personne ne conteste la présence, l'existence de cette clause. Mais, compte tenu de son historique, de la notion de la responsabilité politique, l'usage de cette clause dérogatoire soulève toutes sortes de questionnements. Est-ce que c'est justifié de l'utiliser dans ce cas-ci? Où est la preuve qui justifie ce recours? Et étonnamment, jusqu'à date, le gouvernement du Québec a dit très, très peu afin de justifier son choix. Il n'a pas vraiment montré au public le dossier. Voici les preuves qui nous mènent à croire que ce projet de loi va produire de tels effets. Voici les preuves qui démontrent que c'est un problème urgent d'éliminer les enseignantes voilées dans la province. Il n'y a pas de preuves démontrées de cet effet. Il n'y a pas de preuves non plus qu'il y ait une prosélytisation quelconque qui a lieu dans nos écoles ou ailleurs. Mais le gouvernement se précipite, disant « la majorité voudrait ceci, la majorité serait à l'aise avec cette proposition, alors allons-y ». C'est là l'une des préoccupations majeures pour ceux qui se soucient de la primauté du droit et de l'imputabilité politique, c'est que le gouvernement ne s'est pas vraiment justifié dans ce contexte.
Along with Grégoire Weber, Robert Leakey and Eric Mendelsohn recently wrote an article for Policy Options that turned some of our assumptions about the notwithstanding clause on their head. They argue that Bill 21 still can and should be challenged in the courts. Here's Robert Leakey now.
Well, if you read the Constitution of Canada carefully, the notwithstanding clause, section 33, says that a law will have its effects despite the charter rights. And for a lawyer, the language of effects refers to a law's being in force, to a law's being applied and carried out by governmental authorities. But it doesn't say anything about the role of the courts in that situation. And so looking at section 33 in its text, it seems to us that it prevents a court from issuing a declaration that a law is invalid and of no force or effect, to use frequent language. But it doesn't say that the courts just need to roll over and play dead. So it seems to us there's the potential for litigants to go to court and say, look, I'm a citizen, I would like to understand the full extent of what the government is doing. The notwithstanding clause has a 5-year sunset built into it, requiring each government after a general election to sort of renew it if they want to continue to operate despite the Canadian Charter. We say a citizen has the right to know just how badly, if at all, the government is actually limiting rights and freedoms. And so we think it would be completely possible to go to a court and ask a court to pronounce on the relationship between the challenged law and the fundamental rights and freedoms protected by the Charter. And so what the court could do would be to issue its conclusions and perhaps to make a declaration, were the notwithstanding clause not invoked here, I would strike this law down as being incompatible with Canada's most cherished rights and freedoms. We think that is a path that's fully open. So the whole idea of the government that using the notwithstanding clause will spare it the trouble of going to court, I think, is misguided. And even beyond that, there are certain constitutional norms that are not affected by the notwithstanding clause as well. People are speaking recently that the minority language schooling provision in the Canadian Charter, which gives Anglophone school boards the right to control their operations, that they can probably make quite good arguments that they have the right to hire and promote and maintain whoever they want as a teacher. And the notwithstanding clause does nothing to block those arguments getting to court.
I think if you look at how important it seems to be to the main political actors promoting Bill 21 to assert again and again that there is no discrimination and that it's a moderate law, that discourse is important to the government. You see in its persistent hitting these themes that it's important to the government not to be perceived as committing an injustice. And I think that is one of the important things that a court challenge might achieve to evaluate those claims, to come to some kind of conclusion as to whether what the government is saying is true. And I think it's very, very likely that a court determination that what they've been telling the public the whole time was wrong would be quite embarrassing for the government.
I also want to emphasize that unquestionably the bill also limits freedom of religion and freedom of conscience and freedom of expression. So it's not just discrimination. There are other fundamental freedoms at stake as well. What would the consequences be of a trial in which a court with a fair and open and regulated process heard evidence and made a conclusion that the law unjustifiably limited charter rights, even if there were no immediate legal consequences? I think the political consequences would be significant. I think it would be significant within the province. I think it would be significant outside the province. And there's been a bit of a sense so far in the past couple of months that the Quebec government seems a little more rattled by international opprobrium than by criticisms in the Globe and Mail and the National Post. So the Washington Post, the New York Times, the Guardian, or international observers at the UN, these kinds of voices seem to resonate a bit louder for the Quebec government. And if there's a judgment from a superior court with a list of damning conclusions, this bill was not based on evidence, this bill will not achieve the objectives stated for it, those kinds of things, I think it would change the political conversation to a degree. Would the government roll over immediately and repeal the thing? You know, I wouldn't go so far as that. But I think it would certainly change the landscape. And so, you know, there are other ways people can express themselves. People have been very vocal on Twitter and in social media. But in our constitutional order, the independent, impartial voice of a judge after a full and open judicial process still continues to carry particular weight. And I think the government is aware of that. So when they say we're using the notwithstanding clause, we don't want to have legal troubles, they are aware of how significant a judgment could be for them. There's been a whole lot of theoretical discussion over the years about the notwithstanding clause. What are the appropriate circumstances to use it in? And lots of credible people suggest, look, the notwithstanding clause is there, you know, if a government disagrees with the final decision by the Supreme Court, if a government's persuaded that judges have really reached the wrong conclusion in delicately balancing a whole bunch of factors. What's really striking here in the Quebec situation, and with the Ontario case a year ago where the Ford government considered using it, it's not that situation at all. It's just an attempt to say, we're here, we're the elected majority, and we seem not to care about the individual rights we're about to trample on. And so that's a really big shift in the understanding of the conditions in which the notwithstanding clause would be used. And so it's worrisome because if a government can do it once and sort of say, because we want this, we're going to do it, it does suggest that there will be other recurrences, that it will become easier and perhaps over time a little less politically harmful to do it. And so it's deeply worrisome.
But Quebec's history with the notwithstanding clause is different from that of the rest of Canada. Can we really judge the province by the same standards? I pose this question to Jack Jedwab in light of Bill 101, an example of legislation that was settled by Quebec for Quebec.
So the comparison, I actually think it's nonsense, if I may say that simply. I probably have not said that in writing very much, but I think the comparison is a bit nonsensical. first of all, in terms of the comparison between Quebec and the rest of Canada, there actually is a fair bit of support in the rest of Canada for these types of measures. At least one-third of the population in the rest of Canada supports these types of measures for roughly the same motivation as do Quebecers. There's nothing distinct about the motivation of Quebecers with respect to this law compared to the rest of Canada. In the case of Bill 101, it was actually quite conflictual in terms of opinion in the rest of Canada, where it was sort of uniformly opposed to the idea of language legislation in Quebec. Not always for good reason, by the way, in the case of language legislation. There was a stronger rationale for the Charter of the French Language. In that case of Bill 101, there actually was no initial notwithstanding clause in the legislation, right? So core challenges were allowed to go forward. Core challenges did go forward in the case of Bill 101, and modifications and amendments were made, keeping in mind what those core challenges might have offered by way of guidance to legislators so that they wouldn't be in violation of the Charter of Rights. The notwithstanding clause only emerged after successive challenges that went through our court system up to the Supreme Court. And only in 1989, 12 years after the adoption of the bill, did the government of the day, a Liberal government, decide to invoke the notwithstanding clause to protect one aspect of Bill 101, which involved commercial signage. And it worked to lift the notwithstanding clause by amending that provision over the next 5 years. So I think the narrative and the trajectory are very different. The government of the day did not, in the immediate adoption of the law, move to introduce a notwithstanding clause to prevent core challenges. It allowed the core challenges, and only 12 years later did it decide to use very, very grudgingly and with tremendous reticence the notwithstanding clause. Here it's being used, I would argue, quite gratuitously as a way just to obstruct process where Quebecers should know that there is or is not a charter violation. It's important to allow that process to go forward. In fact, not allowing that process to go forward will probably lead to civil disobedience, because those people who you're disempowering from pursuing their sincere desire to know whether there's a charter violation, you're saying we have no other recourse since we can't use the courts, but to disobey a law that we are persuaded is a violation of human rights. So that's where, you know, this thing, I think, does not compare well to Bill 101. The only way it compares to Bill 101, at least in the government's view, is its insistence that a majority wants this. Right? Or a majority likes this. Now, it's not because we like something or dislike something that we should legislate. Right? I think there's a very real danger in creating the impression for people, because we don't like you, that we're going to legislate. Now, we may mask this legislation in a variety of things that makes it look more equal, or touching on all religions equally does not make it any more legitimate or palpable.
Mais quels pourraient être les impacts de cette loi à long terme? Voici ce que nos invités avaient à dire sur le sujet.
À long terme, c'est difficile à dire quels seront les impacts de la loi 21 sur le tissu social et sur les relations entre diverses communautés au sein de notre société. J'imagine que dans l'espoir du gouvernement, leur désir, c'est qu'il ne va pas avoir des frictions et qu'ils vont être en mesure d'ici 3 ans avant les prochaines élections d'insister que toutes les prévisions que ceci va amenés à la désobéissance civile ou à d'autres frictions, n'ont pas été réalisées. J'imagine que le gouvernement va dire ça même s'il y a des frictions. Ils vont insister que ceci a été largement accepté. Il ne va pas avoir beaucoup de renvois. On va difficilement, probablement, être capable de voir l'impact en termes de gens qui n'appliquent pas, parce que ça va être difficile de documenter cette réalité, même si certains médias vont tenter à documenter la réalité de personnes qui auraient désiré enseigner dans une école publique qui porte un hijab, mais ça va être difficile de bien montrer que ça, c'est l'impact. Mais c'est sûr que, sur le point de vue juridique, ils vont avoir des contestations, des efforts de contester malgré la clause non absent. Des gens vont chercher des pistes pour contester. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on va voir une affirmation plus forte de la part des minorités de leur identité. C'est-à-dire que des gens qui désirent envoyer un message aux répliques à ce genre de loi vont affirmer qu'ils sont juifs, musulmans, sikhs ou autres publiquement de manière plus fréquente qu'ils ont fait auparavant.
Sur les impacts à long terme, c'est sûr qu'on peut difficilement prévoir ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que ce projet de loi s'est présenté comme une voie vers la sérénité. Alors, le Premier ministre, dans son allocution il y a quelques mois, a dit « Il est temps que ça s'arrête, on va en finir, on va faire ça ». En réalité, ça ne finira pas, parce que comme je le disais, on est dans la perception de l'application de la loi plutôt que dans une loi qui est très claire. Fait que dans les prochaines années, c'est pas vrai que ça va être serein. c'est pas vrai que les problèmes sont réglés. En fait, il va même, je pense, il va même y avoir juste encore plus de controverses, des mini-controverses localement, qui vont refléter le niveau d'inégalité d'application. Personnellement, je pense que c'est plus ce scénario-là qui va se passer. Ce que ça va continuer à entériner, c'est le fait qu'il y a des Québécois qui ne veulent plus rien avoir à entendre autour de la question des religions des autres, et qu'il y en a qui veulent juste vivre comme des citoyens égaux. Donc on dirait que ça ne fait que nous prévoir un débat cristallisé et polarisé pour les prochaines années. D'autant plus que sur la clause dérogatoire, c'est un argument qui a été très peu mis en place par les juristes, mais qui a été très peu entendu dans l'espace public, mais c'est que la clause dérogatoire, ce n'est pas ad vitam aeternam, c'est qu'il va falloir réouvrir la question dans 4 ou 5 ans. Fait qu'on est encore là à parler de religion, puis on est encore là à essayer de répondre très maladroitement à une question qu'on se pose très maladroitement.
So the notwithstanding clause is one issue. There's another one, which is the larger question. When citizens take to the courts defending their rights, are they participating in society or are they threatening it? The federal government, in various forms over the years, has had a court challenges program that has financed litigation under the Canadian Charter. And the Liberal governments that put that in place had the idea that it was actually better for Canadian society for rights violations to come to light, to be identified, and for governments to respond. The Quebec government now, with Bill 21 and the whole rhetoric around it, and I think we see that a little bit with Ford in Ontario, suggests that people who go to court are simply getting in the way of the majoritarian governance project, that they're not legitimate, that they should be just accepting the norms imposed on them. And that's a radical reconception of how society functions. What is more peaceful as a sign of Quebec integration than going to court, going to the Quebec Superior Court with the Quebec Charter in one hand and the Canadian Charter in the other, and saying, I, as a Quebec citizen, wish to defend my rights? And that's being stigmatized, that's being cast as a threat that needs to be stopped. And it's very serious.
Thanks so much to Robert Leckie, Eric Mendelson, Jack Jedwab, and Bosha Manai for their contributions to the debate on Quebec's Bill 21. And thanks to everyone who tuned in for this special bilingual episode of the Policy Options podcast.
Pour écouter d'autres épisodes du balado d'Options politiques, vous pouvez visiter notre site web, notre page SoundCloud ou nous retrouver sur Apple Podcasts et Google Play. Si vous désirez nous contacter, suivez nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn. Ou envoyez-nous un courriel à optionspolitiques@irpp.org. Ce sera tout pour notre balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute.